C'est encore avec joie que je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je salue également vous tous qui nous regardez derrière vos écrans à travers YouTube. Nous prions notre prière quotidienne, qui est la prière que le Seigneur nous a appris, disant « Que ton règne vienne ». Et quand nous prions et que nous disons que ton règne vienne, on devrait se poser des questions. Quel genre de règne nous demandons? Un règne du Seigneur. Le Seigneur dit que son règne ne peut être comparé au royaume de ce monde. Mon royaume, dit Jésus, ne vient pas de ce monde. Il a comparu devant Pilate, car ce royaume ne peut être comparé à aucune chose. Et ici, le Seigneur, donc, fait une parabole, compare le royaume des cieux. Le Seigneur commence disant que sa parole, son royaume, est comme des grains qu'on sème. Les disciples et tous les Juifs pensaient que quand le Messie allait venir, il va venir d'une manière spontanée et son règne viendra avec lui. Et son règne descendra des cieux. Mais le parabole que Jésus donne ici rend encore plus difficile de comprendre comment le règne va venir. Il donne donc plusieurs exemples concernant donc d'abord le grain qui a été semé. Jésus dit quand le semeur viendra, il va semer le long du chemin, il va semer sur un sol rempli de pierres, des épines et de bonnes terres, et seules les graines qui ont été semées dans la bonne terre ont porté de fruits. Et quand les gens écoutaient la parole, on devrait se demander donc se poser cette question: qui est donc cette personne qui va aller semer le long du chemin? Qui est donc cette personne qui va aller semer les grains dans les bonnes terres? Qui est celui qui va semer dans les pierres, dans les terres pierreuses et dans les terres épineuses? Est-ce une folie de semer dans ces endroits? L'amour du Seigneur, c'est par amour que le Seigneur agit ainsi. Le Seigneur dit, il y a une folie encore au-delà de cela. Et ce sont ceux qui viennent écouter la parole de Dieu avec un cœur comme une terre remplie de pierres ou d'épines. Si celui qui sème, celui qui vient écouter la parole de Dieu et qui ne s'est pas préparé ressemble à ce semeur, à ces graines qui ont été semées. Est-ce que le règne est voué à l'échec? N'y a-t-il pas d'espoir? Jésus donne encore une autre parabole. La parole, dit Jésus, ressemble à un grain de sénévé qui, une fois qu'il a été semé, meurt, et une fois qu'il est dans, il meurt, il va donner une grande, il va pousser et il sera plus grand et deviendra un grand arbre. Il est d'abord comme un grain de sénévé, mais quand il a poussé, il est devenu plus grand qu'un arbre, devenu un arbre, pardon. Et ici, dans notre péricope d'aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à se mettre à la place de ces personnes qui ont porté beaucoup de fruits. Quelle doit être donc la vie de ces personnes dont la parole a été semée dans la bonne terre et qui a porté de fruits et qui a porté les fruits de la repentance? Quel devait être donc le cœur, l'état de cœur de ces personnes qui sont devenues un arbre et dans lequel devient un abri pour les oiseaux du ciel? Commençons donc la vie de ces personnes qui ont changé de vie. Ce sont des personnes qui ont trouvé un trésor inestimable. Et quand ils ont trouvé ce trésor, il a vendu tout ce qu'il avait. Et après avoir vendu tout ce qu'il avait, il a acheté ce champ. Et ou bien la perle qu'il a trouvée. Ces deux personnes donc, ont trouvé des choses qui ont été cachées, un trésor caché. L'un a trouvé un trésor qui était dans un champ, c'est-à-dire que cette personne a travaillé dans ce champ. C'était un homme simple et pendant qu'il a travaillé, il a trouvé un trésor caché. Et quand il a trouvé ce trésor caché, il a tout vendu pour acheter ce champ. Et le deuxième homme, il a trouvé une perle. Souvent, les perles sont dans des huîtres. Et pour les trouver, c'est pas quelque chose de facile de pouvoir le trouver. Mais quand cet homme a trouvé la perle, il a trouvé une perle, parmi toutes les perles qu'il a vues, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé tout vendre et l'a achetée. Cela veut dire que cette perle qu'il a trouvée ne peut être comparée avec toutes les perles qu'il a pu trouver auparavant. Tout ce qu'il avait dans sa vie ne pouvait être comparé à ce trésor qu'il a trouvé. Quel est donc ce trésor qu'il a trouvé? Tout le chapitre 13 parle d'un contexte sur le mystère caché. Jésus parle en parabole. Et dans la culture juive, seuls les scribes ont la possibilité de comprendre les paraboles. Mais ici, Jésus parle en parabole. Dans son enseignement, Jésus parle d'un trésor caché. Qui alors aurait pu donc comprendre sa prédication et son enseignement? Ce sont ceux qui sont venus à lui qui ont dit: Seigneur, apprends-nous parce que nous ne savons pas. Ceux qui l'ont côtoyé seulement ont pu comprendre les paraboles. La question donc qui se pose ici: quel est donc ce trésor caché? Quel est donc ce perle de grand prix que tous, qui est à la portée de tous, pas seulement celui qui cherche, mais même un homme simple peut trouver ce trésor caché. Dans Éphésiens 3, Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, voici ce qu'il dit: Dieu m'a permis de faire voir le mystère caché du Seigneur. Et ce mystère, c'est la grâce qui s'ouvre pour les païens. Et cette grâce qui est à la portée de tous, qui est ouverte pour tous. Cette grâce, donc, c'est le mystère qui est caché. Et ce mystère, c'est celui qui côtoie le Seigneur seulement qui pourra comprendre ce mystère caché. Ce mystère, ce trésor caché sera révélé à celui qui côtoie le Seigneur, celui qui dit qu'il ne sait rien et qui a besoin du Seigneur pour lui faire apprendre sur le royaume des cieux. Et quand nous avons lu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, le livre des rois, Salomon, Dieu, l'Éternel dit à Salomon: demande ce que tu veux. Et quand Salomon a demandé ce qu'il voulait, le Seigneur lui dit: comme tu as fait grâce, comme tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, garde-moi aussi dans ta bienveillance. Ce que Salomon a gardé en souvenir, tout ce que son père a fait, qui a conquis plusieurs pays, qui a remporté la victoire sur plusieurs combats, Salomon s'est rappelé de la bienveillance de Dieu envers son père. Et c'est ce que Salomon dit ici à l'Éternel: celui qui a cheminé avec toi a trouvé grâce à tes yeux, a a pu voir ta grande bienveillance. Quand Dieu va détruire le monde, dans le livre de la Genèse, Noé était juste aux yeux de Dieu parce qu'il a marché avec le Seigneur, cheminé et côtoyé avec le Seigneur. Lui a permis de voir la grâce et la bienveillance de Dieu. Et Salomon dit ici, et on parle ici de une recette en malgache, ici il est traduit en bienveillance, c'est le fruit du fait que la personne côtoie le Seigneur. Dans la langue sémitique, du côté de Proche-Orient, recette veut dire, on peut voir donc cela dans la relation entre un père et son enfant, dans la relation entre des époux et également dans la relation entre le maître et son serviteur, le maître et ses invités. Quand on regarde la relation entre le père et ses enfants ou la mère et ses enfants, l'enfant n'a pas besoin de demander, mais on prend soin de lui. Quand l'enfant est encore petit, dès que l'enfant est né, la maman lui donne son sein, le nourrit. On peut penser cela comme une obligation. C'est l'obligation des parents de prendre soin de leur enfant. Mais c'est une obligation qui n'est pas une obligation, mais c'est le fruit d'une relation. C'est ce qu'on appelle le recette. C'est quelque chose. Il en est de même pour les époux et les couples. Sarah, donc, a reçu la promesse de Dieu et a vu la bienveillance de Dieu. Et il en est de même pour les esclaves. Quand Abraham a été circoncis, tous les esclaves qui étaient avec lui se sont fait également circoncire. Et Lot, quand il a reçu des invités, il a pris soin des anges qui sont venus chez lui. Et comme les anges ont demeuré dans sa maisonnée, il y a eu le recette. Il y a eu la grâce qu'ils reçoivent comme une sorte d'obligation, mais qui n'en est pas une. Mais c'est parce qu'il y a cette relation. Et il en est de même pour le Dieu qui est dans le Deutéronome 7. Quand il parle aux enfants d'Israël, je ferai grâce à des milliers de votre génération si vous demeurez en moi. Le fait de côtoyer le Seigneur donne de la bienveillance. Et quand Salomon a vu la bienveillance de Dieu envers son père, voici ce qu'il dit: comme tu as fait avec ton serviteur David, je veux également que tu conserves cette grande bienveillance envers moi. Nous prions pour que le règne de Dieu vienne. Nous prions pour avoir une véritable relation avec Dieu, que nous puissions côtoyer le Seigneur de manière une communion sincère. Et personne ne peut comprendre la grandeur de cette bienveillance. Et personne ne pourra comprendre la parole de Dieu si nous ne le côtoie pas. Si nous ne côtoyons pas le Seigneur Jésus, si nous ne demeurons pas au pied de la croix comme Marie l'a fait. Et c'est un grand encouragement pour nous. Car il y a une grâce, un trésor caché. Paul dit: j'ai tout considéré comme des ordures pour la connaissance de Jésus-Christ. Quel que soit le diplôme que j'ai eu, dit Paul, moi qui suis un pharisien et qui ai appris au pied de Gamaliel, je fais toutes ces choses comme des ordures. Je considère toutes ces choses comme des ordures parce qu'il a trouvé la grâce et une richesse incomparable, incommensurable, qu'il a trouvée près de Jésus-Christ.
Celui
à qui on a pardonné beaucoup, dit Jésus, aura un grand amour par rapport à celui à qui on a pardonné peu. Cet amour et cette grâce, dit le parabole de Jésus, le grain de senevé a dû d'abord être enseveli, puis ensuite a poussé et devenu plus tard un arbre. Et il est devenu donc une grâce également pour son entourage. Il est devenu un abri pour les oiseaux du ciel. Et c'est une parole d'encouragement pour nous en ce temps de vacances. Il y a une grâce, une bienveillance pour celui qui côtoie le Seigneur, celui qui s'est engagé à suivre le Seigneur. Je vous encourage que vous trouverez une grâce incomparable à la richesse de ce monde en marchant avec le Seigneur. Que cette grâce et seuls ceux qui côtoient le Seigneur pourront expérimenter cette grâce. Celui qui reste en communion avec le Seigneur pourra expérimenter cette grâce. Jésus dit dans le parabole, dans ce royaume, dit le Seigneur, il y a ceux qui ont suivi le Seigneur d'un cœur sincère, mais il y a ceux qui suivent le Seigneur d'apparence seulement. Et il le compare à un filet qui est jeté dans la mer et qui ramassait des poissons de toute espèce. Et quand il les a tirés, le filet était rempli de poissons. Et dans le poisson, il y a eu de bons poissons et il y a des mauvais. Et peu avant cela, Jésus met en garde les disciples sur le bon grain et l'ivraie. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a seulement deux sortes. Ou soit il est bon, soit il est mauvais. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de juste milieu. Les poissons, donc, le filet tiré sur le rivage, le pêcheur a trié ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, il les a jetés. Soit on est un bon grain, soit on est considéré comme les vrais. Il n'y a pas de milieu. Et quand viendra le monde, la fin du monde, dit le Seigneur, il n'y a pas celui-là, il est tiède, celui-là, il est froid ou celui-là, il est chaud. Mais soit il est bon, soit il est mauvais. On ne parle pas ici de la perfection. Et quand nous avons lu Romains 8, 29 tout à l'heure, voici ce qui est écrit. Il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le Seigneur dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes donc appelés, il nous a appelés à avoir la même forme. Il y a une édification. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. La parabole. Mais ceux qui acceptent d'être édifiés par le Seigneur, ceux qui acceptent d'être modelés par le Seigneur, deviendront parfaits. Voilà pourquoi le Seigneur de toutes choses concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car pendant notre marche, notre cheminement, nous allons sûrement traverser des moments difficiles. Mais le Seigneur dit, soyez sans crainte, ma bienveillance vous accompagnera pendant votre édification. Et peu à peu, nous prendrons forme à l'image du Fils. Le Seigneur est en train de nous sculpter. Nous sommes en cours d'édification. On parle ici du bon poisson, du bon grain. Ce sont ceux qui ont accepté d'être édifiés, ceux qui ont confiance au sculpteur. Salomon dit, quand il a cette prière de Salomon, est très en vogue. Le Seigneur dit, tu n'as pas demandé de richesse, tu n'as pas demandé de conquérir d'autres pays, tu n'as pas demandé une longue vie, mais tu as demandé la sagesse. N'oublions pas que avant que Salomon soit sur le trône, c'était par ruse également. Sa maman, c'était dans un conflit familial qu'il a été mis sur le trône. C'est quand, et une fois sur le trône, Salomon dit, je suis encore jeune. Je n'ai aucune expérience. Avec humilité, Salomon reconnaît qu'il n'est pas un roi sage, mais il a confiance en Dieu et il a vu la bienveillance de Dieu sur son père. C'est pourquoi, mes chers amis, soyez confiants, quels que soient les moments difficiles que vous passez, vous serez édifiés à l'image du Fils qui est mort à la croix. Et dans notre cheminement et notre communion avec le Seigneur, il déverse sur nous sa bienveillance, sa grâce qui ne peut être comparée à autre chose. Et l'Église, jusqu'à ce jour, qui a trouvé ce trésor, a oublié, a abandonné toute sa vie et s'est consacrée à Jésus.